RTL Info.
Le journal Raphaël Girardin.
Bonsoir. Marco Odermatt Royal à Sölden, le skieur suisse a dominé le slalom géant disputé sur le glacier autrichien en ouverture de la saison de ski alpin. Il fête le cinquième succès de sa carrière. L'UDESCO a marqué son retour après une longue absence. Le festival de jeux et d'expériences ludiques s'est tenu ce week-end à La Chaux-de-Fonds. Il y a 20 ans, le tunnel du Gotthard connaissait son accident le plus meurtrier. Deux camions entraient en collision et s'embrasaient, provoquant la mort de 11 personnes. On revient sur ce drame. Demain, quelques grisailles et brouillards sont prévus en matinée à basse altitude. Sinon, les conditions ensoleillées vont se poursuivre. Il fera même doux l'après-midi jusqu'à 14 degrés en plaine et 15 à 1000 mètres. Marco Odermatt a marqué les esprits aujourd'hui à Sölden en ouverture de la Coupe du Monde de ski alpin. Troisième après le premier tracé, le Nidwaldien a dominé la seconde manche du slalom géant disputé sur le glacier autrichien. Il a précédé de 7 centièmes l'Autrichien Roland Leitinger qui occupait la tête de la course après la première manche. Le podium est complété par le Slovène Zan Kranjec alors que le grison Gino Kaviezel échoue au pied de la boîte. Marco Odermatt a fêté au passage le cinquième succès de sa carrière en Coupe du Monde. Sa réaction.
C'est fantastique. La départ de saison avec une victoire, c'est magnifique. C'était difficile. Et aussi à la fin, avec la lumière, c'était très triste. Oui, c'est super. Et ma famille est ici et aussi mes amis. Alors, c'est très joli comme ça.
Et si Loïc Meillard termine 16e, Justin Murizier a été le meilleur roman cet après-midi en Autriche. Le Valaisan a empoché la 12e place. Il signe surtout le 4e chrono de la 2e manche. Écoutez la réaction de Justin Murizier.
C'est une bonne course pour reprendre. C'est clair que c'est un peu dommage que je n'ai pas profité de l'occasion parce que c'est vraiment une neige que j'aime, une piste que j'aime. Et je perds beaucoup trop en première et ça c'est un peu dommage. Il y avait un peu de nervosité, mais surtout je pense un peu le doute avec ce matériel. Parce qu'en fait, j'ai changé pas mal par rapport à l'année passée. Et là, je savais pas sur cette neige comment ça réagit. J'ai pu prendre la confiance de la première pour pouvoir vraiment mettre des gaz en deuxième, parce que je savais que ça allait bien.
Des propos recueillis par nos confrères de Ski Actu. Et on reparle du reste de l'actualité sportive dans le Point Sport après ce journal. L'UDESCO a réuni 1500 personnes ce week-end à La Chaux-de-Fonds après 2 ans et demi d'absence. Le plus grand festival de Suisse entièrement dédié aux Jeux vivait sa 11e édition, un mixte des 11e et 12e moutures qui n'ont pas pu avoir lieu à cause de la pandémie. Une version réduite mais qui proposait quand même 1200 jeux et plus de 27 heures de manifestations non-stop. Une édition qui était l'occasion pour le festival de renouer avec son public. Même si la 13e édition est déjà prévue fin mars 2022, il était impensable pour le comité de ne rien faire pendant 3 ans. Le co-président de l'UDESCO, Thomas Junot.
Pour nous, c'était important d'offrir quelque chose à notre public cette année. On pensait déjà peut-être pouvoir le faire au printemps, finalement, ça se fait en octobre. C'est important aussi pour le comité, de manière peut-être un peu plus égoïste. On est un comité de 40 personnes entièrement bénévoles. On fait ça parce qu'on a envie d'organiser quelque chose, on a envie d'offrir quelque chose à la population. Et pour nous, ce n'était pas acceptable d'attendre pour faire quelque chose, même si ça nous oblige de faire peut-être une édition un petit peu plus restreinte par rapport à d'habitude.
En 2019, vous aviez eu 10 000 personnes sur l'ensemble du week-end. C'était une pente ascendante pour l'UDESCO. Est-ce que ce Covid, c'était un coup de frein ou est-ce que vous avez l'impression que ça va pouvoir repartir comme avant ?
Au niveau de la motivation, ça n'a pas été un coup de frein. J'ai trouvé de nouveau pour un comité bénévole énormément de résilience et de motivation en fait, à continuer l'aventure. Et oui, l'UDESCO a connu une croissance exponentielle depuis la première édition. On a toujours été augmenté. Peut-être que le Covid fait du bien aussi de nous recentrer aussi, de retrouver peut-être un petit peu de temps pour nous, pour repartir, j'espère bien, de manière à nouveau exponentielle en 2022.
Et un reportage et une galerie photo de l'événement sont à retrouver sur notre site internet rtn.ch. Imaginez un monde après la pandémie, c'est l'exercice auquel s'est livré le collectif Plonk et Replonk. Il a inauguré sa nouvelle exposition temporaire dans son musée du Pire à Porrentruy ce week-end. Intitulée « Le monde d'après », l'exposition tente de se projeter dans un futur débarrassé du coronavirus. Mais les artistes chaudefonniers se questionnent également sur l'avenir de l'écologie, de la technologie. Une manière aussi de faire face aux craintes liées au changement, selon Jacques Froidevaux, membre de Plonk et Replonk.
C'est essayer de se décontracter face à toutes ces vagues de changements. On est toujours effrayé, apeuré. ennuyés pratiquement avec cette vague de ridiculisés par mes enfants qui manient le téléphone portable mieux que moi. Le fait d'en rire ou d'avoir un peu de dérision, ça élargit le champ de réflexion sur ce sujet, enfin, sur les sujets de ce futur.
L'exposition Le Monde d'après de Planck et Replanck est visible jusqu'au 22 avril au Musée du Pire à Porrentruy. C'est une catastrophe qui a marqué les esprits. Il y a 20 ans, le tunnel du Gothard connaissait son accident le plus meurtrier. Deux camions entraient en collision et provoquaient un incendie qui a coûté la vie à 11 personnes. Thomas Nagy.
C'était le mercredi 24 octobre 2001, vers 9h30 du matin. Un camion d'une entreprise belge conduit par un chauffeur ivre s'est engagé dans le tunnel long de 17 km par l'entrée sud. Il a perdu la maîtrise de son véhicule après 1 km. Il a ensuite heurté à 40 km/h le mur de la galerie avant d'être déporté sur la chaussée opposée. Il a alors embouti un camion italien qui circulait normalement en sens inverse. Le choc a provoqué un court-circuit électrique qui a donné lieu à un gigantesque brasier. Plus de 300 secouristes ont été mobilisés, mais la chaleur a atteint 1200 degrés dans le tunnel. Il leur a fallu 2 jours pour atteindre le lieu de l'accident. 11 personnes ont perdu la vie, 10 ont été mortellement intoxiquées par la fumée et une a péricarbonisé. Dans le tunnel, une centaine de voitures et 15 camions ont été abandonnés par leurs occupants. 7 voitures ont été détruites par l'incendie qui a duré une vingtaine d'heures. C'est un véritable enfer, avait alors déclaré le président de la Confédération, Moritz Leuenberger, venu sur place le lendemain de l'accident. Selon lui, cette catastrophe constituait une tragédie pour toute l'Europe.
Et cet accident a eu pour conséquence un renforcement des mesures de sécurité. On retrouve Thomas Nagy.
L'épisode avait alors relancé la question de la construction d'un second tube au Gothard. Le peuple suisse l'a approuvé en 2016. Le premier dynamitage a eu lieu en septembre dernier. Le nouveau tube devrait être inauguré fin 2029. Mais entre-temps, des mesures ont également été prises. Le trafic de camions est beaucoup plus réglementé au Gothard. Le système de ventilation et d'éclairage ont été améliorés. Et d'une manière générale, la lutte contre les incendies dans les tunnels a été perfectionnée.
Un porte-container en feu dégage du gaz toxique près de Vancouver. Les gardes-côtes canadiens ont évacué aujourd'hui 16 personnes du navire. Ce porte-container a pris feu hier en dégageant un gaz toxique au large de la côte pacifique du pays. Mais d'après les autorités canadiennes, la situation ne présente pas de risque pour les habitants de la côte.
Sport.
18h et bientôt 8 minutes, l'heure de passer au sport avec vous, Marcel Neuenschwander. Bonsoir.
Bonsoir. On commence par du football et le derby lémanique de Super League, puisqu'à quelques minutes de la fin, Sion surprend à Genève contre Servette, puisque les Sédunois mènent 2-0. Même scénario en faveur du leader Bâle contre Lugano. Le match là aussi n'est pas terminé. En revanche, Lucerne a battu Saint-Gall 3-1 et cède sa place de lanterne rouge à Lausanne. Il y a des étages bien inférieurs, toujours en football, en 2e Ligue neuchâteloise. Saint-Imier conserve la tête du classement à la faveur de son succès sur Marin 3-1. Colombier a battu Vevey 2-1. En Swiss League de hockey sur glace, La Chaux-de-Fonds est actuellement dans l'arène. Le club des Mélèzes accueille Viège. Le match a débuté à 17h45. Après la défaite survenue à Cloton, les joueurs de Thierry Paterlini se frottent donc à nouveau un cadeau du championnat. Marc Aubert, vous êtes sur place pour nous faire vivre cette rencontre. Celle-ci, je crois, plutôt mal débutée pour le HCC.
Oui, tout à fait Marcel, puisque les Chaux-de-Fonniers sont menés 2-0 par Léo Valaisan, alors qu'il reste 2 minutes 30 exactement à jouer encore dans le premier tiers-temps. Les Chaux-de-Fonniers qui sont plutôt bien entrés dans le match pourtant, qui se sont montrés dangereux à l'image du match de vendredi à Cloton, mais qui ont cédé face au réalisme viégeois qui, il est vrai, possède une armada offensive impressionnante. Et c'est notamment l'un des deux étrangers, Linus Klaasen, bien connu dans le championnat suisse, l'ancien joueur du HC Lugano, et qui a ouvert le score après 2 minutes 32 pour signer son 8e goal déjà dans ce championnat. Et puis le deuxième goal est tombé après 6 minutes 47. Il a été l'œuvre de Stéphane Meder. Surpasse de ce même Klaasen, 2-0 donc pour le HC Viège, alors qu'il reste à présent un petit peu moins de 2 minutes à jouer dans le premier tiers-temps. Mais si Chaux-de-Fonds est dominé pour l'heure, rien n'est joué. Peut-être que les hommes de Thierry Paterlini ont laissé beaucoup d'énergie vendredi à Cloton, mais ils ont réussi à passes, créer passablement d'occasions également. Et ils ont montré qu'ils étaient capables de revenir dans cette partie. Ils auront en tout cas à cœur de se reprendre puisque la patinoire des Mélèzes est très bien garnie aujourd'hui. Le club a mis sur pied une action avec le billet à 5 francs et ça a permis d'amener beaucoup de monde donc à la patinoire ce soir, ce qui donnera à coup sûr de l'énergie au Chaudefoyniers pour remonter le score. Donc 2 à 0 pour l'instant pour le HC Viège face au HC La Chaux-de-Fonds, alors qu'il reste un petit peu plus d'une minute à jouer dans le premier tiers-temps.
Oui, merci Marc. Vous pouvez aussi transmettre votre énergie au Chaudefoyniers. On vous retrouve après le point sport et sur les autres patinoires de Swiss League. Zug Academy a perdu contre Olten 9 à 1. Les autres matchs ne sont pas terminés. Sierre domine les Ticino Rockets 3 à 1. C'est un partout entre Langenthal et les Getseka Lions. 0-0 entre Turgovie et Kloten. Et un match avait lieu cet après-midi en National League. Lausanne a disposé de Bienne 4 à 2. Les filles du NUC jouent également Liga féminine de volleyball. Les Neuchâteloises se sont laissées surprendre lors du premier set gagné 25 à 20 par Lugano. De son côté, les joueuses de Valtra sont en train d'en découdre avec Kanti Chafouz à Couvet. Elles ont perdu les deux premières manches 25-21, 25-16. En Ligue B féminine, toujours de volleyball, la seconde garniture du NUC a pris la mesure d'Obval 3 à 1. Elle occupe un bon 5e rang sur 13 équipes au classement. Et toujours pas de succès pour le badminton club La Chaux-de-Fonds dans les interclubs de Liga. Les badistes de la métropole horlogère ont perdu le 4e confrontation de la saison en s'inclinant 6 à 2 à domicile contre Hootsville. Au classement, ils demeurent avant-dernier. Sur le plan international, Fabio Quartararo a offert à la France son premier titre de champion du monde dans la catégorie reine des MotoGP, ceci au terme du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Après l'abandon sur chute de son ultime rival, l'Italien Francesco Bagnaia, le pilote de moto tricolore est assuré de sa couronne avant même les deux dernières courses de la saison. La victoire du jour est revenue à l'Espagnol Marc Marquez. Et en Moto2, Thomas Lutti accueillit deux petits points sur le circuit de Misano. Le Bernois a pris la 14e place d'une épreuve remportée par le Britannique Sam Lewis. Enfin, au championnat du monde de gymnastique, l'Argovien Christian Baumann a totalement manqué son affaire en finale des barres parallèles. Il a malheureusement connu la chute et échoue à la 8e place.